Thomson, éditeur d'ERP, né de la fusion avec Intensia.
La Bourse de Paris est à la hausse, Cédric Decoeur, cet après-midi.
Oui, Claire, la Bourse de Paris, comme d'ailleurs la quasi-totalité des grandes places mondiales, en fait, enregistre un assez net rebond après la dégringolade d'hier. Il faut dire que les investisseurs s'adonnent à une chasse aux bonnes affaires. Le CAC 40 progresse donc d'un 61% à l'heure actuelle à 4 759 points dans un volume d'affaires déjà étoffé de 3 milliards d'euros négociés sur l'ensemble des valeurs du SRD. Ailleurs, sur le vieux continent, on retrouve donc cette même orientation haussière. Francfort gagne un 42%, Londres plus un 35% et l'euro first 80%. Grappille 1,38%. Enfin, sur le marché des changes, le billet vert est encore à la hausse, tandis que l'on attend dans une demi-heure la balance commerciale des États-Unis. L'euro se négocie contre 1,2657. Voilà, Claire, je vous rappelle, le CAC 40, plus 1,6% à 4759 points. À la Bourse de Paris pour France Inter, Cédric Decoeur.
Retrouvez toute l'actualité boursière, des informations sur les valeurs, les marchés et les sociétés, ou bien consultez votre sélection par téléphone sur le 3230, 34 centimes d'euros les minutes. 3230, France Inter au bout du fil.
On termine avec la combinaison gagnante du Quintet Plus à Compiègne. 14, 15, 6, 16 et 8. 14, 15, 6, 16 et 8. Vous écoutez France Inter, il est 14h03, c'est l'heure du café et c'est l'heure de 2 millions d'histoires. Bonjour Patrice Jalinet.
Bonjour Claire Servageant et bonjour à tous. Aujourd'hui, en partenariat avec les rendez-vous citoyens du Sénat qui se tiendront demain à Paris, Versailles ou l'absolutisme mis en scène. Votre Majesté sait que rien ne marque davantage la grandeur et l'esprit des princes que les bâtiments. Colbert. D'histoire. Si le château de Versailles est aujourd'hui le plus célèbre et le plus visité du monde, personne n'aurait pu l'imaginer il y a 400 ans, quand Louis XIV avait décidé de le faire construire sur une des terres les plus inhospitalières de son royaume. 1000 hectares de bois, de broussailles, de sable mouvant et de marécages, sur lesquels allait apparaître un château, un jardin et même une ville, construit en 50 ans, pour un roi qui, à Versailles, voulait montrer au monde entier la puissance de la France et le génie de ses architectes et de ses artistes. Mais Versailles était bien plus qu'une résidence royale ou un musée. C'était aussi le théâtre sur lequel Louis XIV allait mettre en scène son pouvoir absolu et une prison dorée dans laquelle il allait enfermer et domestiquer la noblesse. De même qu'en 1661, ce jeune roi de 23 ans avait décidé un jour de domestiquer la nature.
Monsieur Le Beau, Monsieur Le Mont, je veux un jardin féerique, des parterres, des bassins, des fontaines, des forêts. Tout doit se construire à partir de cette perspective.
Là, sire, la campagne de Versailles désespérément plate.
Le sol est un cloaque, sur les collines il y a les arbres, mais là, partout, ce ne sont que marais.
La nature se plie comme les hommes. Je le veux, vous le ferez. Mais des 1000, 3 000 ouvriers s'il le faut. Plantez des arbres adultes.
Madre, il ne veut pas nous emmener dans cette vase.
Joël Cornette, bonjour.
Bonjour.
Alors, dans un livre collectif publié chez Talendier, Versailles, le pouvoir de la pierre, vous mettez en évidence quelque chose qui n'apparaît pas nécessairement quand on visite aujourd'hui le château de Versailles. On s'extasie bien sûr devant l'architecture de Levaux, de Mansart, devant les jardins de Lenôtre, devant la peinture de Lebrun. On pense aux pièces de Racine ou de Molière qui étaient jouées à Versailles, à la musique de Lully. Mais on ne voit pas toujours que derrière tout cela, il y avait, et je dirais, il y avait surtout un projet politique.
Une volonté politique et une volonté qui effectivement s'exprime par la vue. C'est-à-dire qu'il faut montrer le pouvoir. Nous sommes à une époque où le pouvoir se conçoit par une visibilité de ce qui incarne l'autorité, la majesté, et donc le roi, le premier des guerriers, le premier des gentilshommes, doit avoir un palais plus grand, plus lumineux, plus extraordinaire, plus opulent que ceux de tous les autres. Et ça, je crois que c'est le point de départ de Versailles.
Et puis il y a l'exploit que ça représente, parce que ce terrain, cette plaine de Versailles est absolument inconstructible, hein. C'est vraiment des marécages.
Oui, voilà, et là aussi c'est une curiosité en quelque sorte. Versailles, c'est une sorte de prototype d'aménagement du territoire finalement. En plein XVIIe siècle, voilà qu'on va transformer, mais à quel prix, des hectares entiers de marais, de terres inhospitalières, un village qu'on va raser, des buttes qu'on va araser, c'est-à-dire une transformation justement spectaculaire pour transformer ce lieu en une architecture spectacle, une architecture capable de dire l'autorité.
Alors avant le château, c'était pas un désert, il y avait déjà un château, c'était plutôt un relais de chasse qui avait été construit par le père de Louis XIV, par Louis XIII, mais alors là dans un objectif totalement différent. Il s'agissait pas d'y amener la cour, il s'agissait au contraire de la fuir, c'était un refuge pour Louis XIII, le petit relais de chasse qui a servi d'ailleurs de point de départ de la construction du château.
Voilà, on voit encore ce relais de chasse. C'est une histoire très étonnante des relations étranges entre un père et un fils. Et le fils a perdu son père très tôt. Et je me demande si ce désir de garder absolument au noyau, le noyau même du château, qui est la maison du père, de son père, c'est-à-dire ce petit relais de chasse de Louis XIII, ça a été aussi un désir de Louis XIV de continuer en quelque sorte l'œuvre de son père. Mais en même temps, c'est étonnant, le château de Louis XIII, c'est presque l'inverse du château de Louis XIV. Louis XIII est un roi misanthrope, un roi timide, un roi qui n'aime pas trop la société de cour. Et pour lui, le premier Versailles des années 1620-1630, c'est un château de refuge, un château presque du roi caché.
Cela dit, pour Louis XIV aussi, parce que quand il prend le pouvoir, littéralement, en 1661, quand il décide de construire Versailles, c'est pas nécessairement tout de suite, au début, dans l'idée d'en faire le château que c'est devenu.
Non,
lui-même, il voulait faire un peu comme son père, il voulait y abriter ses amours avec sa première favorite, la Vallière.
Ça a été progressif. Et effectivement, on oublie souvent qu'il y a plusieurs Louis XIV. Louis XIV est un roi qui a vécu jusqu'à 77 ans. Et donc, aucun rapport, évidemment, entre le jeune homme aventureux, cavalier et amoureux, des années 1650-60, et puis le vieil homme bigot et dévot à Versailles, toujours dans les années 1700-1710. Donc, effectivement, le premier Louis XIV, c'est un Louis XIV qui cherche un refuge pour protéger ses amours. Pas seulement avec sa femme, Marie-Thérèse, très effacée, mais aussi ses maîtresses, qui furent nombreuses, on le sait, dans ces années-là.
Et c'est donc un peu plus tard que progressivement Versailles deviendra en 50 ans un des plus grands et des plus longs chantiers de l'histoire.
Eh bien, monsieur Levaux, où en est l'ouvrage ?
La grosse maçonnerie de l'aile du midi est achevée. La plomberie et la couverture seront bientôt faites. Et dans peu, Votre Majesté pourra avoir beaucoup de menuisiers en place.
Avez-vous vu, monsieur Levaux, les peintures destinées à orner les 7 pièces du grand appartement ?
Oui, si.
Rien ne marque davantage la grandeur et l'esprit des princes que les bâtiments. Et toute leur postérité les mesure à l'aune des édifices qu'ils ont construits. Versailles restera après moi le palais de ma dynastie. Gardez ceci à l'esprit et ne ménagez aucune des beautés qui pourraient l'enrichir. Avez-vous, monsieur Colbert, estimé d'après les plans combien de personnes le palais pourra abriter?
Oui, sire. 13 000 personnes.
Je veux que les plans soient agrandis jusqu'à 15 000. Quand les seigneurs et souverains étrangers viendront nous rendre visite, l'immensité et les nouveautés dans l'ordonnance de ce palais seront pour eux la juste mesure de la puissance de la France.
C'est un incroyable chantier, Versailles, Joël Cornette, vous le rappelez, il va employer jusqu'à 36 000 ouvriers certaines années, et c'est construit en plusieurs tranches, on le dit toujours, et en 50 ans, ça a duré 50 ans, avec au début des architectes qui ne sont pas des inconnus, et qui travaillaient pour un autre château célèbre, dont, dit-on, Louis XIV était jaloux, c'était le château de Fouquet à Vaux-le-Vicomte.
Voilà, je crois que c'est l'année 1661 qui est capitale, évidemment, l'année de prise de pouvoir officielle de Louis XIV, après la mort de Mazarin, et surtout, il y a eu une fête fatale pour Fouquet, la fête de Vaux, le 17 août 1661. Et cette fête, ça a été une sorte de défi de magnificence, puisque Fouquet, qui dirige les finances, a voulu en quelque sorte manifester à son roi non seulement sa puissance, sa gloire, mais aussi sa fortune multiple. Et on dit, et plusieurs témoins le rapportent, que Louis XIV a été très choqué par cette espèce d'étalage extraordinaire de richesse. Alors, ce n'est pas la cause directe de la chute de Fouquet, mais ça a contribué à son arrestation quelques jours plus tard par D'Artagnan à Nantes, le 5 septembre 1661. Donc, il y a le passage de Vaux à Versailles, et en même temps, le passage d'une équipe de Vaux à l'équipe de Versailles.
Hein,
la même, absolument.
Il prend l'architecte de Fouquet, le Vaux, il prend le peintre, le Brun, il prend le jardinier, le nôtre.
Jusqu'au fontainier, ouais. les frères Franchine qui venaient d'Italie et donc qui sont employés à Versailles, puisque un des aspects de Versailles, c'est la capture de l'eau, on pourra éventuellement.
Alors justement, c'est une des choses qui a coûté le plus cher. En 50 ans, quand même, Versailles, le coût, on a entendu dans cet extrait de film très réaliste que Colbert s'en inquiétait, le coût était extraordinairement élevé, Joël Cornet.
Oui, alors on a peut-être aussi exagéré. C'est vrai que c'est un château de la démesure à l'échelle du temps, mais des études quand même très précises, menées en particulier sur les comptes des bâtiments du roi, aboutissent à une somme que j'oserais presque dire raisonnable de moins de 100 millions de livres. Alors, pour nos auditeurs, 100 millions de livres, ça ne veut pas dire grand-chose. Disons qu'un bon ouvrier à Paris gagne à peu près une livre par jour. Donc, convertissons ça en journée de travail, ça représente 80 millions de journées de travail, le château de Versailles. Alors, autre comparaison, c'est moins cher qu'une campagne militaire. Donc, ça veut dire, si vous voulez, que Versailles, bien sûr, c'est un coût énorme, mais par rapport au coût de la guerre et au budget de la guerre qui déséquilibre le budget de l'État, je dirais que Versailles, c'est relativement... Bon, évidemment, c'est onéreux, mais ça n'a pas complètement déséquilibré les finances de l'État.
Et 3 à 5% du budget royal.
Oui, oui. Alors, certaines années, on pesait plus lourd. Par exemple, lors des construction des grandes ailes nord et sud dans les années 80. Alors, et ce sont des années exceptionnelles.
Alors, peu de choses peut-être aussi au regard du bénéfice politique que Louis XIV en attendait. Et d'abord, la domestication de la noblesse qui s'était en partie dressée contre lui à l'époque de la Fronde et qu'il va faire venir à Versailles quand, dans les années 1670, il décide de s'y installer.
Voyez-vous, monsieur Colbert, je m'établirai en ce château que le roi mon père a fait construire à Versailles. Jusqu'à présent, les grands séjournaient à la cour à leurs frais. Ils seront désormais meublés et logés au frais de la couronne d'un bout à l'autre de l'année.
Pourtant, sire, les libéralités de votre majesté ne feront pas que les gentilshommes ne s'endettent. Loin de leur terre, sollicités par mille occasions de dépenses, ils emprunteront.
Qu'ils empruntent. Je couvrirai leurs dettes les plus criantes pour les attacher étroitement à ma personne. La noblesse, je veux que de nouveau elle attende tout du roi. Privilège, honneur, argent. Pour cela, nous la tiendrons continuellement en notre présence, séparée de la bourgeoisie, et ferons en sorte qu'être éloignée de nous soit pour elle un plus grand malheur que l'exil.
Prenez garde, sire, que les dépenses ne soient grandes.
Alors, enfermer la noblesse dans une prison dorée, au fond, c'est un des principaux objectifs politiques de Louis XIV, vous le rappelez, Joël Cornet. Et puis aussi, il s'installe, c'est au moment où il s'installe. Il faut quand même mentionner, c'est très important, jusque-là, la monarchie, les rois étaient un peu errants, ils allaient de château en château. Là, c'est la première fois, je crois, que vraiment... Louis XIV choisit de faire de ce château une résidence permanente.
Voilà, la monarchie est nomade. On peut dire que le roi tourne autour de son royaume et jusqu'à Louis XIV inclus. Et le roi multiplie les entrées dans les villes, les voyages dans les provinces, dans la Fronde notamment. Et cet enracinement à Versailles, c'est vrai que c'est une relative nouveauté. Désormais, le roi, alors on a exagéré, le roi continue à se déplacer à la guerre à Fontainebleau chaque automne. Mais il est vrai qu'à partir de cette installation 1682, on peut dire que la monarchie change de nature. Elle devient vraiment, pour le coup, une monarchie administrative où l'occupation de Versailles, avec les ailes des ministres notamment, enracine en quelque sorte cette monarchie administrative qui caractérise aussi le règne de Louis XIV.
Et alors, elle enracine autre chose, on va y venir, on en parle depuis le début un peu, c'est la noblesse. Ça, c'était très important. Qu'elle vienne à Versailles, que Louis XIV l'y attire. On voit bien que c'était sa volonté. Pour quelle raison, Joël Cornet?
Pour une raison très simple, qui est que la noblesse, c'est la turbulence. Et toute l'enfance de Louis XIV a été marquée par des crises de la noblesse, des crises de malcontentement, des révoltes. Et la plus spectaculaire de ces révoltes, tout le monde la connaît, c'est la révolte du prince de Condé. C'est-à-dire, au moment de la Fronde, le prince du sang a osé se révolter, non pas contre le roi directement, à cette époque, personne ne s'oppose au roi, mais au pouvoir qu'il incarne. Et notamment Mazarin, qui est à l'époque le principal ministre. Et donc, Louis XIV a gardé vraiment dans sa mémoire un souvenir extrêmement amer de ces années frondeuses. Et on peut dire que Versailles est une sorte de conséquence double, à la fois maintenir la doublesse sur place, éviter qu'elle fuit, et puis aussi peut-être un écart par rapport à Paris, car n'oublions pas, Paris est aussi marqué par une grande... Voilà, cœur de la France, cœur de la Fronde, mais aussi turbulent Paris. Hein, n'oublions pas que Henri III y avait été chassé au moment des journées des barricades, qu'Henri IV, le grand-père de Louis XIV, a été assassiné, et que Louis XIV lui-même a dû fuir par une nuit froide de janvier 1649, le Paris frondeur, alors que le Parlement tenait en quelque sorte le haut du pavé. Donc tous ces souvenirs constituent vraiment une mémoire politique extrêmement forte auprès de Louis XIV. Et son règne peut se lire justement comme une réaction.
Mais est-ce que la noblesse a accepté de bon gré de venir à Versailles, de quitter ses terres, de s'installer à demeure ou presque auprès du roi? Ça devait... Comment est-ce qu'il a fait? Parce que...
Eh ben oui, c'est un paradoxe. C'est-à-dire que la noblesse, c'est presque une servitude contrainte, mais une servitude volontaire, pour pasticher le titre d'un essai de la Boétie au XVIe siècle. C'est-à-dire que la noblesse, à la limite, en redemande. Son problème, c'est la vue du roi, c'est d'être considéré par le roi, bénéficier de sa faveur. Donc, à part, je suggérais tout à l'heure que Louis XIII a été un roi un peu en retrait, un roi qui, justement, n'a pas joué ce jeu du dialogue avec la noblesse. La preuve, c'est que Richelieu captait, en quelque sorte, la faveur. Or, quand Louis XIV dit que à partir de moi, tout doit passer par moi, par ma signature, bah, après tout, c'est ce que la noblesse réclamait. C'est-à-dire que finalement, on reconnaisse ses mérites à la guerre, à la cour, à la ville, et c'est ce que Louis XIV réalise à Versailles.
Alors, elle va venir à Versailles, mais pas seulement au château. Le château ne pouvait pas contenir toute la noblesse de France. Et vous le rappelez aussi, et on l'oublie souvent, on a construit non seulement le château à cette époque-là, au XVIIe siècle, mais la ville. Versailles, c'est... pour l'époque, une ville nouvelle dans laquelle, justement, se sont installés les aristocrates qui venaient à la cour.
Voilà, une ville tout à fait neuve, et c'est assez rare dans la monarchie d'Ancien Régime de voir des villes construites de toutes pièces. Et Versailles en fait partie en 1671. On a la charte de mise en place de cette ville. Et une ville, et là aussi c'est une nouveauté, qui obéit à un cahier des charges très précis, avec des hôtels particuliers qui se ressemblent tous, une sorte de plan, en quelque sorte, de programmation de la ville. Et ça, dans l'histoire même de la architecture, c'est extrêmement intéressant, extrêmement nouveau, d'une certaine manière.
La noblesse que Louis XIV donc fait venir à Versailles, qu'il faut distraire évidemment, en faisant aussi venir à Versailles les plus grands musiciens, les plus grands écrivains du royaume, étroitement surveillés bien sûr par Louis XIV.
Ah, monsieur Molière, on me dit beaucoup de mal de votre pièce, monsieur.
Supplie votre majesté de s'éclairer elle-même sur cette matière. Car il est très assuré, sire, qu'il ne faut plus que je songe à faire de comédie si les Tartuffes ont l'avantage. Ils prendront droit par là de me persécuter plus que jamais et voudront trouver à redire aux choses les plus innocentes qui pourront sortir de ma plume.
J'entends. Monsieur Lully, nous souhaitons que M. Molière et vous-même œuvriez ensemble à un divertissement, au plus tôt.
C'était Le Bourgeois Gentilhomme, une comédie-ballet de Molière et Lully. Versailles, c'était aussi, et pas seulement avec Molière et Lully, c'était un extraordinaire rassemblement de talents, de comédiens, d'écrivains, de musiciens, de peintres, de sculpteurs. C'était fabuleux. On a rarement vu ça dans un si petit périmètre.
Voilà, c'est un moment extraordinaire de création multiple qu'on a appelé plus tard le classicisme. Et au-delà du classicisme, il y a aussi du baroque, il y a aussi du ballet, il y a aussi de l'opéra, il y a aussi de la création multiple, de la peinture. peinture, la sculpture, c'est vrai que Louis XIV a rassemblé à Versailles tout ce qu'il y avait de meilleur dans le royaume de France, et même au-delà, puisqu'il a voulu capter la plupart des créations, y compris européennes. Et ça fait partie du projet politique.
Oui, justement, c'est pas seulement un mécénat pour la galerie, c'est un projet politique. Vous le rappelez, il y en a plusieurs. D'abord, montrer au monde entier le génie, le talent, le rayonnement de la culture française, faire travailler aussi les artisans auxquels on commande des tas de meubles, des tapisseries, de la verrerie, etc. Il y a aussi peut-être transmettre sur le plan intérieur les pensées secrètes du roi. Par exemple, Tartuffe, le roi, dans cet extrait du film de Mouchkine, fait semblant de s'en offusquer. Pas du tout, il le souhaitait, ce Tartuffe.
Ah oui, absolument. Tartuffe, c'est une histoire extraordinaire, puisque Tartuffe, qu'on y pense, on est au XVIIe siècle, un XVIIe dévot, où le christianisme est évidemment absolument dominant. Donc, oser représenter quelqu'un qui se sert de la religion comme un instrument d'hypocrisie, c'était quelque chose de, je dirais, énorme sur le plan politique. Et c'est Louis XIV qui a finalement permis à Molière cette extraordinaire liberté. Et face à la reine-mère, Anne d'Autriche, qui était, si je puis dire, celle qui dirigeait les dévots, le parti dévot, c'était un coup de force intellectuelle et politique de Louis XIV. Et c'est bien Louis XIV qui a imposé Molière, là.
Alors, il y a aussi de la propagande, vous le dites, vous employez ce mot, Joël Cornette, dans certains aspects de l'art tel qu'il est représenté à Versailles, notamment un endroit très important, la galerie des glaces, et particulièrement le plafond. Le plafond est destiné, dites-vous, à faire passer pour une victoire ce qui était un demi-échec dans la guerre contre la Hollande.
Effectivement, la guerre de la Hollande, c'était le désir de détruire une république aristocratique et aussi bourgeoise, commerçante, commerciale et calviniste. 1 million de personnes, et Louis XIV n'y a pas réussi, puisque la guerre de Hollande s'est transformée en une guerre européenne, toute l'Europe en gros coalisée contre Louis XIV. Alors, ça n'a pas été une défaite, ça n'a pas été non plus une victoire éclatante, et il a fallu transformer en quelque sorte cette espèce de semi-échec ou semi-victoire en une sorte d'apothéose à la gloire du roi. Et c'est vrai qu'en 1678, au moment de la paix de Nimègue, on assiste à une sorte de concert dithyrambique, de dithyrambes multiples, et Versailles fait partie de ce concert de louanges, puisqu'on a décidé de transformer la terrasse qui faisait face au jardin en une immense galerie de 80 mètres de long, et cette galerie comporte un message politique en image, la galerie des glaces qui vient d'ailleurs d'être restaurée, qui est en cours de restauration, qui est un monument extraordinaire, je dirais, d'égocentrisme politique, où Louis XIV est représenté simplement en roi du monde, c'est-à-dire gouvernant l'ensemble des nations qui sont à ses pieds.
Et puis toutes ces peintures, ces fêtes, ces pièces de théâtre, ces concerts sont aussi destinés à meubler l'ennui de la noblesse qui, à Versailles, est soumise à une étiquette et une discipline et un rituel très rigoureux qui commence dès le matin avec le lever du roi en public devant une assistance triée sur le volet, lorsqu'à 8h, eh bien, on assiste au lever du roi qui commence par la prière du roi du matin.
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Vivis et regnat in saecula saeculorum.
Amen.
Que se passe-t-il, la reine appelle?
Non, non. Elle fait savoir que le roi a accompli cette nuit le devoir conjugal.
Eh bien, quelles sont les nouvelles de son éminence?
Son éminence a exprimé le désir de voir votre majesté après son lever.
L'esprit de vin.
L'esprit de vin.
Bonjour mon frère.
Bonjour aussi.
Ça, c'est extraordinaire, Joël Cornette, le rituel de la cour, et notamment autour du roi, la scène notamment du lever du roi, vraiment qui étale en public, devant tout le monde, sa vie privée, jusque dans le moindre détail, ce qu'il a fait la veille avec la reine, et puis ce qu'il fait aussi le matin, comme tout le monde. C'est fabuleux, ces scènes, on imagine mal aujourd'hui.
Oui, c'est extraordinaire. Voilà un corps de roi qui ne lui appartient pas, finalement. Et son corps est l'État, incarne l'État. Donc, vous venez d'employer le terme de vie privée. La notion de vie privée n'est pas vraiment concevable au temps de Louis XIV. Toute sa vie, depuis sa naissance, qui a été publique, jusqu'à sa mort, qui a été publique, voilà, c'est un corps offert à un rituel, à une cérémonie. Il est l'État. Il n'a jamais dit l'État c'est moi, mais d'une certaine façon, sa fonction c'est d'incarner l'État. Et donc, il n'a pas besoin de le dire. Son activité, le rituel de chacune de ses journées, c'est la manifestation de la majesté, la manifestation de la souveraineté en acte, en quelque sorte.
Et une étiquette rigoureuse, c'était Madame de Maintenon qui disait, il n'y a point dans les couvents d'austérité pareille à celle auquel l'étiquette de la cour assujettit les grands, parce qu'ils sont là à faire des courbettes, à se précipiter, il faut être là pour vu qu'on soit invité au lever du roi, au coucher du roi. Et puis alors il y a aussi des titres, évidemment on attend des titres ronflants, extraordinaires, chef du gobelet de la reine, gouverneur des carpes de sa majesté, capitaine des menus plaisirs, tout ça c'est fabuleux.
Ah oui, c'est une administration extrêmement complexe, avec des valets qui étaient d'ailleurs des espions pour le roi, et toute une cascade de fonctions par quartier, par trimestre, et donc des centaines et des milliers même de serviteurs justement pour faire fonctionner cette grande mécanique dont parle Saint-Simon, de la cour.
Et ça va se poursuivre alors après Louis XIV, encore que je crois que le régent décide de faire quitter la cour, de partir de Versailles, on y reviendra avec Louis XV, Louis XVI. Est-ce qu'aujourd'hui même encore, d'une certaine manière, Joël Cornette, cette espèce de rituel, cette volonté de bâtir, est-ce que c'est pas une tradition française même sous la République ?
Oh, je crois, je pense que chaque président de la République a voulu marquer par la pierre, en quelque sorte, son passage sur cette terre, et c'est vrai qu'on pourrait associer à chacun de nos présidents du présent ou du passé très proche.
Sauf qu'on n'assiste pas au lever du président de la République.
Non, je ne crois pas. Justement, le privé, la vie privée, c'est quand même un peu imposé. Ça aussi, c'est une autre histoire. Mais après tout, à Georges Pompidou, on peut associer la Tour Montparnasse, au président Mitterrand, la BNF et la pyramide du Louvre, et à Jacques Chirac, le musée des arts premiers. Donc, je veux dire que chaque président a voulu, d'une certaine façon, dans la pierre, inscrire une part à la fois de sa personne et de sa personnalité, y compris politique.
Est-ce que ça n'a pas été aussi Versailles un peu l'apogée de l'absolutisme, parce que vous dites aussi, il y a à l'époque de Versailles, au 18e, un peu après la construction, il y a un écrivain qui sera d'ailleurs un révolutionnaire, qui s'appelait je crois Mercier, et qui avait écrit une espèce de fiction qui imaginait Versailles en 2440.
2440, voilà.
Et Versailles en ruine.
Et un Versailles ruiné, oui, qui était l'image finalement de cette espèce de vision un peu despotique de quelqu'un qui s'est pris pour le roi du monde, et finalement nous sommes là au siècle des Lumières, et c'est vrai que l'intérêt se porte plus sur la société réelle, en quelque sorte, sur l'économie, sur la vie de province finalement, et non pas au cœur de l'État, au cœur du roi. Il y a là un décentrement qui est tout à fait intéressant.
C'est quelque chose d'assez étonnant quand même, tout ce que vous écrivez. C'est vrai, quand on va à Versailles aujourd'hui, on s'extasie devant la beauté du site, de l'architecture, du jardin, des jardins de Lenôtre, et on oublie toujours cet aspect politique. Pourquoi ? Parce qu'il n'existe plus aujourd'hui, parce que...
Je ne sais pas. Peut-être parce que Versailles a longtemps appartenu aux historiens de l'art, et c'est vrai que la commande politique apparaît moins que la description ou l'analyse du contenu des œuvres. Mais il va de soi que Versailles a une fonction politique. C'est une architecture parlante, et finalement, c'est le témoignage le plus éloquent de Louis XIV. Louis XIV a laissé des mémoires écrites, il a laissé aussi des mémoires de pierre, et sa mémoire de pierre, c'est Versailles.
Merci, Joël Cornette. Je rappelle que vous avez dirigé un ouvrage collectif, Versailles, le pouvoir de la pierre, publié aux éditions Talendier, et on peut aussi retrouver la même histoire racontée dans un CD, l'histoire racontée de vive voix, Versailles, aux éditions de vive voix. Et enfin, vous êtes également l'auteur d'un livre, Histoire de la Bretagne et des Bretons, un livre en deux volumes qui vient, vous venez de l'apprendre, d'obtenir, je crois, le Grand Prix de l'Académie française. Bravo. Et puis un livre qui pourrait aussi faire partie des prix qui pourraient être récompensés demain à la remise du prix du livre d'histoire décerné par le Sénat, où l'on pourra vous retrouver aussi demain à 11h30 à l'occasion des rendez-vous citoyens où vous participez à une table ronde que j'animerai sur le thème de la mise en scène du pouvoir de Kéops à Kennedy. Rendez-vous citoyens du Sénat, un événement dont France Inter est partenaire et dont il sera aussi question ce soir dans l'émission Génération de David Glaser de 18 à 18h16 sur Inter. Vous avez pu entendre des extraits de trois films, La prise du pouvoir par Louis XIV de Roberto Rossellini, disponible en DVD chez MK2, Le Roi Danse de Gérard Corbiot, disponible en DVD chez France Télévisions, et enfin Molière, écrit et réalisé par Ariane Mouchkine, édité chez Bel Air en DVD. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 32 30, 34 centimes la minute ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Pascal Baldassari, Valentin Vaner, Claire Tessert, Claire Destacant, Mathieu Ménossi, notre réalisatrice Anne Kobilac.
Bonne fin de semaine à tous donc, et à demain pour ceux que j'aurai le plaisir de retrouver au rendez-vous citoyen du Sénat, et pour les autres, qu'on se retrouve dès lundi avec de nouveaux sujets. Lundi, l'architecte de Hitler, Albert Speer. Mardi, les républicains espagnols. Mercredi, un pirate français, Jean Lafitte. Et enfin, jeudi et vendredi, à l'occasion du 100e anniversaire de sa réhabilitation, l'affaire Dreyfus. Il est 14h30, j'étais un peu à la bourre. Et l'heure de retrouver Eric Osman. Bonjour.
Bonjour Patrice, et à lundi. Destiné, on atteint tous les deux destinés.
Musique Express.
Des sensations musicales inimaginables jusqu'à présent.
Eric Osvald.
Merci à vous, ça a l'air parfait maintenant.
Bonjour et bienvenue à bord de Musique Express pour la dernière de la semaine. Nous sommes un peu tête à la bourre. Alors, aujourd'hui, un titre long, Les Doors, When the Music's Over, et une très belle surprise reggae signée Malik Boulibaye dont on reparle dans un instant. Pour commencer, probablement le titre qui a fait connaître le groupe Aston Villa à la France entière, en version acoustique, résonne.
Tellement jeune et belle, avec les cheveux longs, tous les délires m'appartiennent.